elles créent des petites entreprises et elles emploient d'autres personnes. Le challenge qu'il y a, et il faut dire aussi que l'Afrique subsaharienne a l'un des taux les plus importants dans le monde d'activité économique des femmes. Donc, les femmes africaines ont toujours travaillé, surtout en Afrique subsaharienne. Les femmes ont toujours fait partie de l'économie. Si nous prenons l'activité agricole, par exemple, les femmes sont les productrices à 80%. Hein, donc, et sur toute la chaîne agricole, c'est les femmes qui dominent. C'est elles qui produisent, c'est elles qui assurent le transport, c'est elles qui assurent le commerce, c'est elles qui assurent la transformation. Donc, les femmes africaines sont très actives économiquement. Le challenge aujourd'hui, c'est de passer de la micro-entreprise à la petite entreprise, voire la moyenne entreprise. Parce que cette toute petite entreprise n'est pas viable. N'est pas viable, c'est une entreprise de survie. La femme arrive à peine à s'en sortir avec ce qu'elle gagne là-dedans, fournit beaucoup trop d'efforts pour les revenus qu'elle retire. Donc, l'auditeur a évoqué quelques points. La formation est essentielle. Vous avez parlé de notre projet avec les femmes commerçantes. Elles ont suivi une formation. Elles se sont constituées en association pour pouvoir dialoguer avec d'autres partenaires. Et nous avons constaté que plus de 70% ont vu une augmentation en chiffre d'affaires de plus de 100%. Donc, il y a quelques actions à mener pour que ces femmes micro-entrepreneurs passent carrément à un autre niveau.
Kawala, on fait une petite parenthèse pour parler politique.
D'accord.
Entre parenthèses.
L'Assemblée nationale du Cameroun compte 56 femmes sur un total de 180 députés, soit un peu plus de 31% de femmes. Le pourcentage dépasse le seuil exigé par le plan d'action de Beijing et il faut dire que lors de ces législatives en 2013, la représentation des femmes a plus que doublé. La législature précédente comptait 25 femmes sur 180 députés, soit 13% environ selon ONU Femmes. Alors, Kawala, dites-nous dans un premier temps, qu'est-ce qui a permis, selon vous, brièvement, hein, dites-nous ce grand pas en avant, et pensez-vous qu'il faille atteindre la parité ?
Alors, la parité n'est pas un débat. Si on vit vraiment dans une société démocratique, les femmes sont, dans mon pays, 52% de la population. Il ne serait pas alors surprenant de les voir être représentées à 52% dans toutes les institutions de la République. Donc pour moi, la parité n'est pas un grand débat. Maintenant, qu'est-ce qui a pu permettre de doubler la représentation des femmes à l'Assemblée nationale? Encore une fois, il a fallu il y a eu un combat pendant plusieurs années des associations féminines, des leaders féminins que nous sommes, pour demander que les listes, parce que nous avons des élections municipales et législatives par liste, que les listes soient composées à au moins 30% de femmes, et que les femmes soient bien positionnées dans les listes pour pouvoir effectivement accéder aux postes électifs. Et on a vu qu'une simple recommandation, parce que ce n'était pas une loi, mais c'était une recommandation de la part de Elections Cameroun, donc l'organe qui gère les élections au Cameroun, a suffi pour que tous les partis politiques respectent cette consigne. Il y a eu des listes qui ont été rejetées parce que la consigne n'a pas été respectée. Et voilà, une fois qu'on donne une chance égale aux femmes d'être dans la compétition, nous constatons qu'elles peuvent gagner.
Kawala, on va restituer un petit peu les auditeurs dans l'histoire politique de votre pays. Hein. Vous me dites si je me trompe, entre 65 et 80, c'est le temps du parti unique avec Amadou Ahidjo. En 84, Paul Biya, président, hein, devient président parti unique encore, hein, suite à la démission d'Ahidjo. 88, on remet ça, Paul Biya encore unique candidat présidentiel. Hein, il remporte les élections générales. Le multipartisme est réintroduit au Cameroun en 90. 92, c'est donc les premières présidentielles de l'histoire du pays à avoir plus, c'est la première présidentielle de l'histoire du pays à avoir plusieurs candidats. Donc Paul Biya, 40% à peu près, John Frundi, 36%, 97%, l'opposition boycotte les élections, Biya retrouve un score rappelant le temps du parti unique, hein, plus de 90%, tandis que les autres candidats seront entre 0 et 5% pour toutes les prochaines présidentielles jusqu'à présent. Et par-dessus le marché, on passe à un mandat de 7 ans. On a donc 2004-2011. Le SDF de Frundi est toujours dans la course juste derrière Biya. Et tout ceci va nous ramener en 2018, comme le temps passe. Alors, plus de 30 ans au pouvoir, comment éviter un nouveau scénario antidémocratique, Kawala ?
33 ans au pouvoir, précisément. Les Camerounais doivent absolument prendre la responsabilité pour leur propre avenir. Je crois que c'est vrai pour le Cameroun, c'est vrai pour l'ensemble de l'Afrique. Nous l'avons bien vu au Burkina Faso, des Burkinabés qui ont dit non, nous ne pouvons pas continuer dans un système qui perpétue un seul homme au pouvoir pendant des décennies. Et ils ont pris cette décision, ils ont pris leur avenir, leur destin entre leurs mains. Et aujourd'hui, le Burkina est en train de réécrire sa constitution, est en train de remettre des institutions démocratiques en place qui vont assurer l'avenir du pays. Le Cameroun, aujourd'hui, a besoin de prendre sa solution, trouver sa solution pour prendre en main son propre destin. Je ne vais pas demander une formule burkinabé, parce que chaque pays a son parcours, mais ce qui est clair, c'est que le peuple a besoin de s'exprimer, a besoin de dire non, stop, 33 ans, ça suffit. Et nous avons besoin de remettre les choses à plat pour pouvoir avoir des élections saines, pour pouvoir avoir des institutions démocratiques en lesquelles nous pouvons croire.
Kawala, on revient sur notre sujet. L'entrepreneuriat féminin joue-t-il un rôle important dans la lutte contre la pauvreté et le chômage en Afrique ? Nous avons Richard de la RDC. Richard, on vous écoute. Richard, oui, est-ce que vous m'entendez?
Vraiment.
Alors, on vous écoute, Richard.
Oui, je suis en train de...
Vous êtes où, Richard, en RDC?
Oui. Dans la province orientale, dans la ville d'Ivire, à Ivire, c'est vraiment le sujet tellement intéressant. Et c'est tout qui est chez nous ici, à Nord-Est, depuis des années. Les parents n'ont pas vraiment du travail à faire. Et c'est ce que j'ai vraiment, je le sais, vraiment, c'est des femmes qui sont à la base. Parce que le mari travaille, mais il a même pas de salaire vraiment qui peut suffire pour nourrir sa famille. Et ce sont les femmes qui sont vraiment, qui font du travail, qui sont impliquées vraiment pour des petits commerces. Et je souhaiterais un jour que ceux qui sont vraiment, si on crée au moins une synergie vraiment des femmes entrepreneurs qui viendront même au fin fond. Un pays comme la RDC, ça signifie ce qui sont déjà projet dans le domaine informant, avec des petits commerces pour mourir, pour lutter contre la pauvreté qui sévit dans les pays africains. Alors, ceux-là peuvent venir soutenir au moins, donner des formules pour élever au moins le niveau de ce qui sont déjà dans un pays qui n'a pas vraiment de travail. Alors, eux, c'est tout, l'État, le gouvernement ne donne pas la possibilité pour ces femmes-là de s'expliquer pour mieux réussir le niveau de la préférence des femmes ici chez nous.
Merci beaucoup, Richard, pour votre témoignage. Nous avons un autre auditeur en ligne qui nous appelle de Freetown, en Sierra Leone.
Oui, allô, bonsoir.
Monsieur Niouma, Tolno Niouma, comment allez-vous?
Je vais bien ici à Freetown.
Très bien. Alors, qu'auriez-vous à dire sur cette question? L'entrepreneuriat féminin, selon vous, joue-t-il un rôle important dans la lutte contre la pauvreté et le chômage en Afrique?
Mais aussi, ça joue aussi un rôle très très important dans la lutte contre la corruption. Si vous voyez que les femmes ne sont pas tellement exposées, ou bien les femmes sont vraiment ne sont pas vulnérables devant la corruption, c'est parce qu'elles résistent à la corruption. C'est parce que ces femmes, au matin, dès le lever du jour, c'est ces femmes qui vont au marché, dans l'informel, chercher de l'argent pour pouvoir nourrir leur famille. Mais nous voyons ici que la fin de l'épidémie Ebola, les femmes séraliennes ont été victimes, sont même au premier plan de cette lutte. Les femmes se sont engagées pour lutter contre l'épidémie Ebola. Les femmes se sont engagées sur le plan social à mobiliser les enfants, mobiliser leurs maris pour lutter contre cette épidémie Ebola. Mais aussi, nous voyons que les femmes se sont aussi mobilisées économiquement. Parce que si nous voyons qu'aujourd'hui l'économie de la Sierra Leone est faible, c'est parce que le gouvernement ne reconnaît pas jusqu'à présent que les femmes sont le pilier, le moteur même de l'économie léonaise. C'est parce que peut-être c'est pas ignorance ou alors ils le font exprès, mais je ne sais pas. Et nous voyons que quand la femme ne participe pas au développement d'un pays, ce pays est toujours victime de corruption. C'est ce qui se passe ici en Sierra Leone. Les femmes ne sont pas appelées, elles ne sont pas mélangées, elles ne font pas partie du développement. Elles sont mises à l'écart. Ce qui vraiment joue ici en Sierra Leone, on ne peut pas lutter contre la pauvreté, comme le dit notre gouvernement, sans faire participer ces femmes à la gestion du bien public.
Merci beaucoup pour votre témoignage en provenance de Freetown, capitale de la Sierra Leone. Je voudrais en profiter pour lire quelques messages sur notre Facebook, le Facebook de VOA Afrique. On a Brian Quadio qui dit « Oui, bien sûr, la femme est la ceinture qui tient le foyer ici en Afrique. Nous savons combien de fois ces femmes luttent pour le bien-être de leur foyer, ce même quand leurs époux ne travaillent pas ou sont au chômage. Elles sont braves, courageuses et tenaces. Elles emploient des hommes comme des femmes. Alors je peux répondre par l'affirmative à votre question. » Nous avons Maris Balouichi de RDC qui dit « Peut-être, s'il y a un bon fonctionnement, ça ira de l'avant. » Tibila Ouedraogo qui dit, lui, « Attention, certaines, quand elles sont autonomes au plan économique, le mari est foutu. Il n'a aucun droit sur elles. Elles font ce qu'elles veulent quand elles le veulent, comme elles le veulent. Pire, si le mari est chômeur ou sans salaire, c'est ainsi que beaucoup d'entre elles ont perdu ou quitté leur foyer parce que, ne pouvant pas vivre avec un homme qui n'a pas de revenus mensuels, c'est dommage, mais il faut tout de même les aider à être autonomes, car toutes ne sont pas aussi matérialistes. Merci beaucoup Tibila, ça c'est une bonne nouvelle. Mamadi Onivogui de Guinée dit, lui, je dirais qu'en vérité c'est l'une des options à cultiver et à encourager en Afrique. Wilfried Akchegbe dit, en Afrique les femmes jouent des rôles importants dans les familles. Au Bénin, avec l'avènement des microcrédits, il y a eu un changement. En effet, les microcrédits, ça c'est un sujet de débat aussi très important. Nous avons Franck Caboret qui dit c'est juste, hein, il répond donc à l'autre web utilisateur. Elidja Sossou dit les femmes jouent un grand rôle dans la société, elles gèrent bien les choses. Prenons le cas de la Centrafrique ou du Libéria par exemple, donc il parle des femmes présidentes. Alphonse Mbouaki dit des filles qui ne sont pas allées loin à l'école apprennent la couture, elles tressent des cheveux dans les rues et cette activité rapporte financièrement. D'autres filles plus nombreuses vont dans les activités cosmétiques au point que les salons de beauté prolifèrent dans les villes de la RD Congo. Nous avons, et c'est encore Alphonse. Alors nous avons, et c'est encore Alphonse Mbouaki qui dit, beaucoup d'autres filles sont dans l'enseignement ou l'administration, elles sont dans la fonction publique, elles occupent de hautes fonctions de commandement, sont cadres dans le secteur privé ou public. L'autonomisation des femmes progresse en RD Congo, elles prennent des initiatives plus que les hommes. Kawala, votre réaction par rapport à ces commentaires?
Oui, je crois que vos auditeurs ont tout à fait raison. Les femmes jouent un rôle très importante au sein de la famille, au sein de la communauté. Il faut dire que les études nous démontrent que quand une femme a ses revenus, elle dépense environ 80% de ses revenus pour la famille et pour la communauté. Ça, c'est en comparaison à l'homme qui, lui, dépense environ 40% seulement sur la famille et sur la communauté. Donc, une femme qui a des revenus, ça veut dire des enfants qui vont à l'école, ça veut dire que des enfants qui sont beaucoup plus en santé, ça veut dire alors une communauté qui est plus en santé. Donc, je crois qu'on n'a pas de choix aujourd'hui. Il n'y a vraiment pas de débat pour l'Afrique, pour nous en sortir sur le plan économique. Nous devons de mettre en place toutes les stratégies. Et comme je dis, aujourd'hui, la question n'est pas comment est-ce qu'on rend les femmes africaines économiquement actives, c'est comment est-ce qu'on prend ces femmes qui sont dans le secteur informel, qui ont des micro-entreprises, qui travaillent. Les femmes qui sont dans les marchés que vous voyez, elles arrivent au travail à 3 heures du matin, elles repartent à 17 heures. Donc c'est une très longue journée de travail pour très peu de revenus. La question aujourd'hui, qu'est-ce que nos gouvernements peuvent faire sur le plan des infrastructures, sur le plan de la formation pour les adultes, sur le plan de l'accès à l'informatique et à l'Internet. Les femmes commerçantes avec lesquelles nous avons travaillé, elles exportent du Cameroun sur le Gabon, sur la Centrafrique, sur la Guinée équatoriale. Elles ont désiré avoir accès à Internet pour connaître les prix de leurs marchandises sur le marché d'exportation. Comme ça leur permet de mieux négocier avec celui qui vient acheter. Et on a constaté qu'elles ont pu augmenter leurs revenus avec ça. Donc il y a des actions concrètes, simples, qui peuvent être menées pour que ces femmes vraiment passent à un autre niveau d'entrepreneuriat et contribuent vraiment beaucoup plus aux économies africaines.
Oui, elles créeraient des emplois, effectivement. Absolument. Je voudrais lire le commentaire de Placide Nzenza Dombeni parce qu'il est vraiment intéressant. C'est un regard critique sur cette question. Alors il dit, avant de parler de l'autonomie de la femme africaine, il s'y est de se demander si la femme africaine tout d'abord est protégée dans ses droits. C'est ainsi que son autonomie sera effective. Déjà dans les lois de plusieurs pays africains, une femme ne peut pas faire une activité sans l'autorisation écrite de son mari ou sans accord de son mari. Bon, ça me fait penser un petit peu aux lois de 1960 dans les pays en France, dans certains pays occidentaux. On en est encore là finalement. Oui. Dans ce cas, c'est vraiment une illusion de parler de l'autonomie de la femme. Donc il dit pour preuve, la parité homme-femme prônée dans plusieurs constitutions des pays africains est une vraie farce. À titre indicatif, la constitution congolaise de la RDC stipule qu'il devrait avoir un équilibre homme-femme. Alors il ajoute, je suis toujours choquée lorsque l'on joue à l'hypocrisie pour masquer l'esprit rétrograde contemporain qui consiste à faire de la femme un outil de production de l'humanité qui n'a des tâches qu'à la cuisine la journée et la chambre à coucher la nuit. Car voilà, on va conclure sur votre réaction encore une fois.
Oui, commentaire très intéressant et je crois très juste dans certaines parties. Très certainement on doit changer toutes les lois. Hein, c'est l'héritage colonial, malheureusement, c'est ça. Hein, aussi bien l'Afrique francophone que l'Afrique anglophone ont hérité de ces lois qui ne permettaient pas à une femme d'ouvrir un compte en banque, d'avoir un titre de commerce, etc. Beaucoup de pays ont évolué, mais pas tout. Et il faut absolument qu'on ait ces droits fondamentaux. La femme aujourd'hui africaine n'est pas réduite à la cuisine. Elle fait la cuisine et l'activité économique et elle s'occupe des enfants et elle doit s'occuper du mari le soir quand elle rentre. Donc je crois qu'aujourd'hui on a sur le plan juridique un travail à faire, mais aussi sur le plan social. On a besoin que ces hommes qui commentent soutiennent leurs femmes parce que c'est très difficile pour une femme de faire une activité économique si elle doit aussi avoir toute la responsabilité du ménage. Il faut un partage de responsabilité afin de permettre aux deux partenaires d'être économiquement actifs.
Merci beaucoup, Kawala, d'avoir participé à cette émission, le magazine au féminin de VO1 Afrique. Je rappelle que vous êtes femme politique et femme d'affaires camerounaise. À très bientôt, au revoir.
Au revoir, merci.
Arrête.
Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look.